CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Madame, monsieur, bonjour. Rémi Thoreau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Après l'avoir reçu pour le Tarn-et-Garonne d'antan, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau dans nos studios de CFM Montauban, Olivier Miquel, qui vient de signer son troisième roman, Dans l'ombre ensevelie, et c'est paru aux éditions Ramsay. Et donc, Olivier Miquel, bonjour.
Bonjour Rémi.
Merci d'être là. Pour ceux qui auraient raté notre premier entretien, je vais rappeler donc que vous avez longtemps travaillé dans la politique, vous avez écrit les discours politiques de nos députés, de nos ministres.
Oui, quelques-uns.
Vous écrivez de nombreux ouvrages, des romans, vous avez écrit une biographie de Henri Salvador,
oui.
Vous avez écrit sur Napoléon.
Oui, deux bouquins sur Napoléon. Sur sa vie intime.
Ouais, Napoléon amoureux.
Oui.
Hein, ça a même donné lieu à une conférence que vous avez donnée à l'Académie des Belles Lettres de Montauban.
Ouais, ouais.
Vous écrivez aussi pour le cinéma, le théâtre,
ouais.
Même de la chanson.
Oui.
Hein, vous êtes un homme très actif, une plume très active. Et donc, Dans l'ombre ensevelie est paru en 2023 aux éditions Ramsay. Est-ce que vous pouvez nous faire le teaser, comme on dit aujourd'hui?
Une histoire. L'intrigue est assez complexe. Elle n'est pas complexe par hasard, puisque l'idée de départ que j'avais au fond de mon crâne depuis des années, c'était de faire des liaisons dangereuses des années 2000. Liaisons dangereuses de Chollet de Laclos, pour moi, c'était un chef-d'œuvre total. Je me suis beaucoup intéressé au 18e et je continue. D'ailleurs, les livres sur la vie intime de Napoléon viennent de ça, de cette passion que j'ai pour la fin de l'ancien régime et le début d'une nouvelle ère. Et la vie au 18e avec les encyclopédistes en particulier me passionne. D'ailleurs, j'ai un projet dont on parlera plus tard sur un Montalbanais qui a été très très célèbre à l'époque, qu'on a complètement oublié. J'avais cette idée depuis très très longtemps. Et pendant la période du confinement, où j'ai eu un peu de temps de recul, je me suis dit, là, je vais mettre à exécution ce que j'avais prévu. Pour des raisons personnelles, je sortais d'une période un peu difficile. J'ai vécu et côtoyé pas mal de milieux à Paris, celui du pouvoir essentiellement, mais un peu aussi celui du monde du cinéma, de ce qu'on appelle
le showbiz, au
sens large. J'avais été assistant réalisateur dans mes premières années à Paris, au cinéma. C'est un milieu que j'avais abandonné justement parce que je le trouvais trop compliqué pour moi, pour ma bonne nature, je dirais. Il y a un cynisme effrayant dans ce milieu, dans d'autres aussi, mais plus on monte évidemment dans dans l'échelle sociale et plus le cynisme est présent. Je ne suis pas le premier à le dénoncer dans un roman. Et donc, mon idée a été de remplacer symboliquement l'aristocratie de l'époque que Chaudard Laclos décrit et avec ces terribles manipulateurs qu'est Valmont et ce couple diabolique qu'il forme avec Madame de Merteuil. J'ai transposé ça dans une personnalité extrêmement cynique qui est un producteur de téléfilms qui lui-même est très proche d'une grande comédienne de théâtre. Ils font pas mal de téléfilms ensemble, mais il voudrait l'un et l'autre aller au cinéma et faire des grands films de cinéma pour être passé à la vitesse supérieure, si je puis dire. Ce producteur est marié avec une femme qui est totalement sous son emprise et qui ne se rend pas compte de la façon dont il l'utilise dans son système relationnel de façon positive et négative. Va entrer là-dedans un auteur qui est une personnalité beaucoup plus à la fois complexe mais beaucoup plus simple qui est quelqu'un qui est d'un cœur très simple, mais d'un esprit compliqué. Mmh. Donc c'est un romancier, quelqu'un qui prête sa plume quelquefois, qui écrit pour d'autres, pour des personnalités connues, ce qui se pratique beaucoup dans le monde de l'édition. Il vit correctement de ça. Et...
Un nègre, comme on dit aujourd'hui. On n'a plus le droit de dire.
On ne peut plus dire un nègre, justement. je le précise dans le roman.
On ne peut plus dire. Oui.
Et ce garçon extrêmement sympathique devient l'ami intime de ce producteur qui, en réalité, n'a pas du tout les intentions déclarées qu'il lui déclare quand il le rencontre. Il lui dit qu'il cherche des auteurs pour des films. En réalité, il sait qu'il va avoir la Légion d'honneur parce qu'il a un ami qui est un ancien ministre, qui est un des personnages principaux du roman, qui est assez cynique lui aussi. Et en fait, on lui a dit qu'il a entendu un jour un discours exceptionnel écrit par cet auteur. Et donc, il veut qu'il lui écrive son discours de Légion d'honneur. Donc, ça démarre comme ça. On va d'ailleurs assister à la cérémonie, qui est assez drôle. Et donc, c'est tout un système de manipulation dans ce petit monde qui commence dans les soirées, le dimanche soir, chez ce producteur qui habite avenue Victor Hugo, qui reçoit de façon fastueuse ce petit groupe qui va s'augmenter d'une jeune comédienne star en devenir, qui va faire tourner la tête de tout le monde, va s'en aller en Espagne, dans la villa du producteur pendant les vacances. Et on va assister à une comédie de mœurs très drôle, je crois. Enfin, c'est ce que j'ai voulu faire et c'est ce qu'on me dit. Mais qui fait que ces personnages horriblement cyniques finissent par devenir sympathiques, parce qu'évidemment, ils se plantent tous sur leurs intentions. Mais ça va virer... Je dis, ça va très mal tourner.
Bon, il ne faut pas le dire. Voilà. Ça, il faut laisser le lecteur découvrir Dans l'ombre ensevelie, paru aux éditions Ramsay. Olivier Miquel, on marque une courte pause et je vous reprends dans un instant. De CFM Montauban en compagnie d'Olivier Miquel, auteur de Dans l'ombre ensevelie aux éditions Ramsay, des manœuvres dans le monde du showbiz et de la politique. On sent le vécu un petit peu.
Oui, il y a des...
sans que vous avez pioché dans, dans votre propre vécu. Il est question d'écrire de quelqu'un qui écrit pour quelqu'un d'autre. Ça a été votre cas pendant des années et des années.
Oui.
D'ailleurs, comment on se met dans la peau de ce quelqu'un d'autre, que ce soit un politique ou autre, pour écrire?
Alors, je ne vais pas être très sympathique pour eux, mais en fait, chaque fois que je suis devenu la plume d'un homme politique, qui étaient en général ministres, en tout cas des personnalités assez éminentes, parce que sinon ils n'ont pas les moyens d'avoir une plume dans leur cabinet. Mais je suis toujours arrivé en disant, écoutez, j'écris votre discours comme si c'était moi, et puis on rajustera en fonction de ce qui vous convient ou pas. Et en fait, ils n'ont jamais rien rajusté, et donc vous, assez rapidement, vous devenez leur voix.
Mais vous-même, quand vous dites vous écrivez pour vous, vous écrivez quand même selon la couleur politique de la personne par laquelle vous écrivez.
Moi, j'ai toujours écrit pour des élus de la droite républicaine. Donc ça, c'est quand même... tout le monde pense grosso modo la même chose. Il faut savoir que sur... Je crois que j'ai écrit, j'avais compté 600 ou 700 discours en tout. Il y a des discours de campagne. Et en général, on utilise des éléments de langage qui proviennent de la source. En l'occurrence, moi, j'avais fait pour le maire de Nice, j'avais fait le Christian Estrosi, j'avais fait la campagne de Nicolas Sarkozy. Et je travaillais avec Henri Guénaud, qui était la plume de Nicolas Sarkozy. On était au ministère de l'Intérieur. Et donc là, il n'y avait pas de discussion. On savait à peu près, on avait des éléments qui étaient les mêmes pour tout le monde. Mais vous avez une part de liberté. Moi, j'ai souvent apporté dans des discours des idées. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amusait là-dedans, c'est que j'ai fait beaucoup passer de mes idées. Cela dit, il y a ensuite, au quotidien, quand vous êtes ministre, il y a plusieurs discours par semaine qui sont coécrits d'abord par des conseillers techniques qui sont en général en fonction de la technique des énarques ou des polytechniciens, etc. Et moi, mon rôle, je disais que derrière, mon rôle, c'était de faire du repassage. C'est-à-dire que ces discours qui étaient très techno, je leur donnais de la vie. J'essayais d'y inclure des images visuelles pour surtout que l'auditoire ne soit pas ennuyé et ait l'impression qu'on lui raconte vraiment une histoire.
Dans votre ouvrage, il est question d'écrire un texte par rapport à la Légion d'honneur, quelqu'un qui reçoit la Légion d'honneur. Là, il faut mettre un peu d'ego aussi, alors du coup, dedans
ou... Alors, justement, non, il a une recette spéciale que moi j'appliquais, parce que j'ai fait pas mal de discours de remise de décoration. Il faut mettre de l'humilité, des faits vrais, qu'on repère quand on interviewe les gens dans leur vie, les gens ou leurs proches, de l'humour et de l'émotion. Et quand le récipiendaire répond, qui m'est arrivé de faire aussi pas mal de discours pour des gens qui recevaient, c'est l'humilité qui compte, il faut faire très très attention. Il y a un jeu de dupes, et d'ailleurs dans le roman, le discours est très drôle parce que c'est un vrai jeu de dupes, c'est-à-dire ce type est un cynique épouvantable et évidemment on fait sa louange en disant que c'est l'honnête homme par définition. Donc il y a la duplicité du jeu de la vie qu'on connaît tous, qui fait que les gens d'ailleurs détestent souvent tout ce qui est officiel, politique, etc. Mais on peut y voir le côté amusant. Le jeu de société, quoi, la comédie sociale.
Oui, parce que du coup, on peut croire aussi au talent de la personne qu'on écoute raconter ce discours et qui finalement n'aurait pas ce talent-là.
Alors oui, certainement. Moi, vous savez, j'ai, pour avoir travaillé avec des hommes politiques de premier plan, ce qu'on leur reproche n'est pas ce qu'on devrait leur reprocher, et inversement. On ne sait pas ce qu'on devrait leur reprocher. Ils ont un ego démesuré pour la plupart. Je pense que la plupart du temps, ils croient à ce qu'ils font. Et parce que, à cause de cet ego démesuré, ils croient qu'ils sont utiles. Ils sont persuadés qu'ils sont plus importants que les autres, dans l'absolu. Donc, ils ne se trahissent pas autant qu'on croit. Alors, ils peuvent faire cyniquement prendre certaines décisions parce que, sur le moment, ça arrange ou que ce n'est pas compatible. Mais vous savez, pour moi, le vrai problème dans notre pays aujourd'hui, en Occident en général, mais en France en particulier, c'est les médias. C'est les médias qui censurent aujourd'hui et qui empêchent les politiques de prendre certaines décisions parce qu'ils ont peur d'être mal perçus dans les médias et d'être maltraités par les médias. Donc, Je crois qu'il faut faire attention. Il y a des caractéristiques très négatives chez les hommes politiques, mais ils sont prisonniers d'un système, on le voit très bien d'ailleurs, il y a une contestation énorme, notamment sur le monde médiatique, avec des médias parallèles qui se développent
J'imagine que vous en parlez dans l'ombre ensevelie de ces médias parallèles, de ces réseaux sociaux, alors, que ce soit X, Facebook ou autre.
J'en parle notamment parce qu'au début du roman, c'est assez drôle, mais il y a une soirée où un certain nombre de personnes que j'ai citées, les protagonistes du roman, sont à la même soirée. Et en fait, il y en a 2 sur 3 qui se connaissent parce qu'ils se connaissent anonymement par des sites de rencontres. Donc en fait, ils ne savent pas qu'ils se parlent, mais ils se sont déjà parlé. Et quelquefois avec des choses assez crues. Donc ça crée... mais là aussi, on est dans la manipulation comme dans les liaisons dangereuses. Donc ça m'amusait de mêler les sites de rencontres...
On est en train de parler de « Dans l'ombre ensevelie » paru aux éditions Ramsay. Une petite pause et puis on revient dans un instant. Olivier Miquel est notre invité aujourd'hui dans le MAG de CFM Montauban. Il nous reste quelques minutes à consacrer à ce 3e roman, c'est ça ?
Oui, j'ai fait pas mal de bouquins, mais comme roman, vraiment roman, c'est le 3e.
Dans l'ombre ensevelie, paru aux éditions Ramsay. Ça c'est... un roman écrit au moment du confinement.
Oui.
On en est sorti aujourd'hui de ce confinement. Vous êtes toujours en train d'écrire ?
Alors là, je suis en train de faire, j'espère avancer à grands pas, un projet de théâtre à Paris, évidemment. J'ai termine aussi un scénario pour un producteur dont nous espérons que nous aurons un financement, parce que là, on parle de projets dont 9 sur 10 n'aboutissent jamais. Donc, il faut malheureusement... Ça, c'est le mauvais côté de ces activités, c'est que il est très difficile de mener un projet à son terme. Même pour les romans, de trouver un éditeur, ça devient de plus en plus difficile. Il y a des critères qui sont un peu les mêmes d'ailleurs que ceux de l'entreprise, c'est-à-dire quand vous avez dépassé 50 ans, si vous n'êtes pas grand patron, il y a des chances qu'on vous dégage. Et l'édition, c'est la même chose. Mmh. C'est, si vous n'avez pas été vendu...
Ça pousse derrière, hein. Il y a des jeunes qui arrivent derrière.
Il y a surtout l'idée que si vous n'avez pas rapporté déjà, fait des ventes gigantesques avec vos bouquins, comme tous ces groupes maintenant sont dirigés par des financiers, on a tendance à vous dire « vous êtes gentil, mais bon, vous ne nous intéressez plus ».
Bon, plutôt dans le théâtre alors quand même, les
le
projets.
Le théâtre, là, j'espère que ça va, que ça va démarrer. J'ai plusieurs pièces déjà écrites.
Et un autre roman peut-être, non ?
Et alors, je ne vous en parle pas aujourd'hui, mais il est probable que mon prochain roman aura pour personnage central, ce sera un roman historique, un personnage de Montauban.
Ah, bon, ben donc ça, affaire à suivre. Je rappelle que je vous avais reçu pour le Tarn-et-Garonne d'antan aussi, et qu'on avait parlé à l'antenne de Montauban la Secrète ou d'autres beaux livres comme ça sur la marqueterie de Martre-Tolosane, enfin les beaux meubles.
À Revel.
Oui, Revel, pardon. Et donc, vous ferez, j'imagine, d'autres projets dans ce style-là.
Écoutez, ça, c'est c'est quand ça tombe, ouais. À la demande. Je me dis, on va voir si ce Tarn-et-Garonne d'antan marche bien, parce que cette maison d'édition fait toutes les grandes villes, ou les villes d'eau, ou les villes importantes, et les départements. En l'occurrence, comme vous savez, on a un tout petit département. Montauban est une ville que j'adore par-dessus tout, mais qui n'est pas une métropole. Est-ce qu'ils vont trouver que les ventes sont suffisantes pour qu'on déclenche un Montauban d'antan ? Je l'espère, et on verra ça dans les mois ou les années qui viennent.
Ça devrait se faire. Merci beaucoup en tout cas, Olivier Miquel, d'être revenu dans nos studios ici à Montauban. Vous aurez votre nom sur un fauteuil ici. Dans l'ombre ensevelie, c'est paru aux éditions Ramsay. À bientôt.
À bientôt, merci.
Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr